Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui dessine dans les marges.
Qui se frite pour un stylo aussi.
Ouais, battez-vous les gars, battez-vous, c'est ça.
Il n'y a pas de boue, on peut pas.
Bienvenue, je suis One Eye Pied, je suis accompagné des sympathiques et fort occupés à écrire à gauche à droite Isaac.
Ouah !
Qui vient de me tuer en tympan. Et Thio !
Qui a perdu les deux du coup à cause de vous. Merci les gars.
Ouais, on est comme ça nous. Pour une émission d'une durée indéterminée, mais sans doute trop longue, dans laquelle nous allons parler de plein de bandes dessinées au programme.
Ah merde, c'est de la BD aujourd'hui.
On revient sur des choses plus ou moins vieilles, comme Il était une fois en France, le tome 1, qu'on n'a pas arrêté de nous recommander, qui serait temps peut-être qu'on commence à le lire, ce qui n'a pas encore été mon cas d'ailleurs. L'Assassin Royal, les 4 premiers tomes, hein, on verra après.
Désolé.
Paolo Pinocchio, Mars aller-retour, Les Amis de Pancho Villa, on vous fait une splash page sur un vieux truc, mais que franchement faut qu'on en parle, ça s'appelle Le Photographe. Matt sera là pour nous parler du yaoi. On finira sur...
Ça se prononce bien comme ça, ouais.
Je sais jamais. Je vais encore me faire taper sur les doigts et je sais plus. On finit sur un hors-sujet indéterminé, mais j'ai une petite idée. Ça va sans doute parler de jeux pour portable encore. Pour téléphone. Ouais, je suis comme ça, moi. Et on va pouvoir commencer tout de suite... En parlant de Il était une fois en France.
Il était temps ! Nouvelle œuvre de la bande dessinée ancienne !
Il était une fois en France de Fabien Nury et Sylvain Vallée chez Glénat, le tome 1 qui s'appelle
L'Empire de Monsieur Joseph.
Qui doit être super bien, mais je ne l'ai pas lu.
Mais il est très bien.
Il est super bien.
Ah ouais,
toi
aussi.
T'as vu, ça te lu. Hein.
Voilà, merci pour cette chronique. Nous
Donc, c'est l'histoire d'un ferrailleur, voilà. Allez, au revoir.
Oui, qu'est-ce que ça raconte?
Grosso modo, c'est une histoire, c'est l'histoire d'un ferrailleur, alors, qui a visiblement réellement existé.
Là, par contre, il y a des faits réels et voilà. Des faits un peu imaginés. Alors, du coup, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas?
Je vais lire l'avertissement qui est au tout début de cette bande dessinée. Bien que cette histoire soit inspirée de faits réels, elle n'en demeure pas moins une fiction. Les incidents authentiques, les suppositions et l'invention pure sont ici librement mélangés. Les personnages historiques côtoient des êtres composites et d'autres entièrement imaginaires. Leurs apparences, comportements et expressions sont le fait des auteurs. Bref, on a un petit peu de tout là-dedans, du vrai, du moins vrai, du franchement inventé. En l'occurrence, le monsieur Joseph en question est en photo dès le début du livre, hein, première page. Donc a priori, c'est effectivement un personnage qui a réellement existé. Après, le reste de l'histoire est sans nul doute partiellement inventé.
Oui, c'est peut-être quelqu'un sur lequel il y avait 2-3 anecdotes et sur lequel il a brodé, quoi.
Voilà. Donc,
Oui, parce que c'est un ferrailleur, mais ça se passe quand?
Alors, ça se passe tout au long de sa vie, en fait, de l'âge de ses 8 ans, quelque chose comme ça.
Disons qu'on finit un peu, on commence à la première, à la fin de la Première Guerre mondiale, et on s'arrête au début de la deuxième.
Ouais.
En tout cas, dans ce tome-là.
On commence en 1905.
Ouais.
Lorsqu'il rencontre tout jeune sa future femme, et ça se termine. Par à peu près sa mort, on est dans les années 70-80, je ne sais plus exactement, on n'a pas la date exacte là.
Dans le tome 1
Eh ouais. Alors mais en fait, c'est
l'histoire de Monsieur Joseph.
C'est l'histoire de Monsieur Joseph uniquement.
D'accord.
Voilà. Et donc, cette histoire, au niveau de la construction, on n'est pas sur une construction chronologique et linéaire, mais il y a énormément d'avances, retours, intermédiaires, totalement
Monsieur
retour
Joseph,
en
c'est
arrière.
Ce n'est pas le héros
C'est le personnage principal. C'est l'histoire de ce personnage, mais bien sûr, après, on va avoir tout ce qui gravite autour de lui. Sa première femme, sa secrétaire, qui est finalement sa deuxième et dernière compagne, les différents juges, inspecteurs, policiers, etc., qui vont enquêter sur lui tout au long de sa vie, son frère, ses enfants, etc. Bref, c'est un personnage plutôt obscur. qui a pour seul objectif dans la vie de s'en sortir, tout simplement, qui a vécu les douleurs, les souffrances de la guerre, et qui n'a donc seule obsession que d'offrir, et de s'offrir à lui par là même, mais d'offrir à sa famille un confort de vie, et ce, par tous les moyens. C'est quelqu'un qui est certes illettré, mais très intelligent, et toute son histoire est donc romancée dans ce tome 1 d'Il était une fois la France. En
1947 France. Pour la fin. Enfin, 1947 pour la fin d'une des histoires.
Et non, et oui, c'est non, c'est que pour la fin d'une des histoires, ouais. On n'est pas encore sur sa mort à lui.
Oui, mais bon, enfin,
ça fait voilà, après donc, la guerre, quoi. 60. C'est un personnage qui est très controversé, en tout cas dans la façon dont on nous est présenté dans la bande dessinée, et qui a fait des choses plus que discutables, hein, beaucoup de pots de bain, de trafic d'influence, etc., pour pouvoir s'en sortir. Et donc on ne sait pas trop si c'est un personnage qui est bon, méchant, bah, tu sais, égoïste, égocentrique.
Bah, tu oscilles entre l'immigré qui a réussi, entre le collabo que tout le monde aimerait brûler,
c'est ça.
Le résistant qui en fait faisait. Enfin,
est-ce qu'il est résistant, il est collabo, il est...
En fait, il a, grosso modo, on peut considérer qu'il a toujours roulé pour ses intérêts et ceux de sa famille. Quelle que soit la situation,
s'il devait... Il a inspiré la chanson de Dutron, je retourne ma veste.
Ouais, c'est-à-dire, il ne regardait pas forcément la légalité de l'opération, ni forcément la moralité de l'opération, mais l'intérêt financier qu'il pouvait récupérer de l'opération. Voilà. Alors, sachant que ce n'est pas non plus un serial killer, hein, il n'a tué personne, c'est du trafic. Du trafic de métaux, en l'occurrence, puisqu'il est ferrailleur à la base.
Ouais.
Il travaillait en Ukraine, ou je ne sais plus, ou en Pologne, ou quelque chose comme ça, bref. Il reconnaît les métaux à la bouche.
Il est ah, ça, savoir c'est si c'est du fer pur ou pas.
Ça, c'est un vrai talent, c'est un super pouvoir. Et donc, il rentre dans la petite entreprise de ferrailleur de l'oncle de sa femme. Et jusqu'à devenir finalement le patron de son ex-patron, oui, okay. Faire grossir son entreprise, être en contact avec faire la police locale, et bref, il fait son empire, l'empire de Monsieur Joseph.
Au niveau du scénario, vos mots.
En fait, il n'est pas écrit le. Je ne sais pas pourquoi, la case est vide. Je ne comprends pas.
Vous n'avez pas dit de bosser.
Non. Et ben, non, mais écoute. Je les ai tous remplis, sauf pareil, la ligne de Il était une fois en France, je ne l'ai pas faite.
D'accord.
C'est, voilà, je ne peux pas t'expliquer pourquoi ça n'a
moi
pas
aussi.
Été fait.
Faux cul.
Alors, pour le scénario.
Lui il a un papier de. Il a écrit les titres des bouquins. Ouh.
Donc, bon, bref.
ça m'a aidé à avancer. Ça.
Alors, pour le scénar, moi j'aurais dit documentaire. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que tu suis. Tu. Un fait entrer l'accusé ou
il remonte la veste et tout
quasiment tu vois, tu pourrais avoir il rentre, il lève sa veste, il se raconte l'histoire et tu vas suivre toute l'histoire de Monsieur Joseph sans avoir pour autant de jugement dans sa vie à aucun moment. Si tu veux, dans le bouquin, j'ai l'impression qu'ils prennent parti pour un côté de Monsieur Joseph qui est méchant ou un côté qui est bon. Ils te montrent simplement les faits.
D'accord.
C'est toi. Il n'y a aucun parti pris.
C'est toi qui vas te faire ton avis sur lui, en fait.
On juge jamais par rapport au fait qu'il soit fidèle, infidèle, par rapport à aux trahisons de ses anciens collaborateurs, amis. Voilà. Les faits sont présentés. Les faits ne sont pas hyper précis non plus. Hein. On retrace en un tome la vie d'un homme qui a une vie très chargée.
Surtout en plus que tu as beaucoup de choses qui sont un peu dans le non-dit, quoi.
Oui.
Et du coup, mais ça donne, je trouve, enfin, une certaine profondeur, parce que quand tu connais un peu, enfin, tu connais l'histoire de ton pays, tu t'y retrouves, quoi. Mais
c'est ça.
Il était une fois en France, c'est pas un titre un peu ambitieux quand même, parce que les trucs qui s'appellent Il était une fois, en général, c'est au cinéma. Hein, il y en a deux qui sont connus. Il y a Dans l'Ouest et En Amérique. En soi, quand on choisit de s'appeler Il était une fois en France, c'est pas, d'après vous, vouloir marquer un grand coup en disant hey, moi aussi je vais faire un méga gros truc. Enfin, ça fait un peu ambitieux, je trouve.
Je trouve ça, ouais, c'est peut-être un gros clin d'œil, c'est un peu ambitieux, mais je trouve que non, c'est un très bon titre.
Moi, je trouve que le Il était une fois, il faut le voir comme on va vous raconter une tranche de vie. L'histoire pas de, comme l'histoire de quelqu'un. Il était une fois dans l'Ouest, l'histoire de l'Ouest. Non, là, c'est une tranche de vie. Les gens qui ont vécu en France et qui ont dû, ben, comme ce personnage, subir la guerre, subir aussi l'occupation, subir la résistance. Et donc, c'est quelqu'un qui est entraîné dans cette histoire-là et il essaye de survivre dans cette histoire-là sans penser à la grandeur de l'histoire, justement. Lui, il est sur sa petite vie à lui, sur sa tranche de vie à lui.
Okay. Le dessin.
Donc, moi, je mettrais ambiancé, ouais. Parce ouais. qu'on baigne justement dans l'univers de ce personnage, et sans jugement de valeur, justement, comme on le disait, et on est dans cette petite bulle et on flotte dans cette ambiance-là.
Le dessin.
Alors, c'est un dessin réaliste, mais qui a, sur certains personnages, le côté caricatural qu'il faut. L'inspecteur de police un peu ripoux qui va avoir une belle gueule bien carrée, un vrai molosse, quoi. Juste ce qu'il faut du côté caricatural pour bien typer les personnages, mais avec un coup de crayon qui est très réaliste.
Là, je le feuillette vite fait, il y a beaucoup de cases très larges qui font vraiment oui, cinémascope.
C'est ça, très et large. Justement pour souvent faire des plans rapprochés. On est dans cette un petit peu si on devait transposer ça dans des films, on serait vraiment dans les polars français des années 80 où on t'y est cadré très serré sur le regard du personnage, sur ses rides, sur ce genre de choses, tu vois. Ça contribue aussi à l'ambiance qui est donnée, hein, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur le scénar. On est vraiment par le dessin, on arrive à transmettre le caractère du personnage. Et tout de suite, on va savoir s'il fait partie des amis de Monsieur Joseph ou s'il fait partie de ceux qui essaient de démonter ce personnage public, puisqu'en fait, il en arrive à devenir un résistant reconnu en France, alors que c'est finalement un personnage très controversé. Et certes, il a fait des choses pour les résistants, mais pas que.
Après, moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des petits passages, surtout au tout début, là, dans le passage dans la salle de jeu de M. Joseph. Tout ce passage-là, dans son bureau, j'ai trouvé que ça faisait vraiment Tonton Flingueur, quoi.
Ouais, c'est ça.
Tu retrouves vraiment les cadrages, les angles de vue que tu peux retrouver dans le film.
Ou une sorte de respect un peu de cette époque.
De cette époque-là, de ce style-là, en fait.
Bon, je t'ai fait acheter ça parce qu'on nous l'a recommandé, que d'après ce que j'en savais, c'était quelque chose vraiment pour toi. Est-ce que on t'a bien conseillé ? Est-ce que tu vas essayer de choper la suite ?
Je vais choper la suite parce qu'en fait, je suis intrigué de savoir quel peut être le tome 2.
Qu'est-ce que ça raconte ?
Ça va être
que tel que vous me le dites, je vois pas...
Disons que je sais pas si c'est l'histoire de quelqu'un d'autre ou si ça va être la suite de,
un détail
de quelqu'un d'autre, mais on aura quand même Monsieur Joseph qui va jouer un rôle dedans. Je pense que peut-être que du coup les différents tomes vont s'imbriquer les uns
voilà.
les autres.
Est-ce que ça va être des histoires croisées, par exemple prendre la vie du juge qui est, il aurait pu prendre par exemple faire un tome sur la vie du juge qui le poursuit tout au long de sa vie et qui est un personnage très intéressant, je trouve.
En gros, c'est une galerie de personnages tous plus intéressants les uns que les
c'est
autres.
Ça.
D'accord.
C'est ça.
Très sympa.
Très voilà. Sympathique à lire.
On vous fera le commentaire sur les suivants bientôt.
Absolument.
L'assassin royal.
Alors,
d'après l'œuvre de Robin Hobb par Godin et Picot.
Voilà, voilà.
Alors, et Surak.
Et Surak au début.
Alors, tout de suite, moi je l'annonce. Je n'ai lu que les. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un préambule pour bien expliquer les choses. Je n'ai pas lu les romans. Vous avez lu les romans, tous les deux.
C'est ça.
Je n'ai lu que les deux premiers tomes de la BD. J'ai pas encore eu le temps de lire les autres. Vous avez lu les quatre. À partir de là, maintenant, on va commencer par, dans les faits, ce que ça raconte.
Alors.
L'assassin royal nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui est le bat dans un monde d'heroic fantasy, du médiéval fantastique, où la magie a l'air assez light et pas très présente.
Oui.
Un peu plus que dans un truc comme le trône de fer. Un peu plus, un peu plus présente, mais moins quand même. Et on va suivre donc la vie de Fitz, qui est
Fitz Chevalerie.
Il ne sait pas comment il s'appelle au début, parce qu'apparemment on ne donne le nom que plus tard, qui est un bâtard.
C'est ça.
De sang royal, mais qui vit un peu dans l'ombre et qui va être embauché pour devenir l'assassin du roi, suivre la formation d'assassin du roi. On se retrouve dans un univers où apparemment il y a des pirates rouges qui sont des gros méchants qui attaquent les côtes dans tous les sens, qui rendent les gens fous en leur faisant perdre leur esprit et ils deviennent des bêtes animales, etc.
C'est une espèce de zombie sauvage.
Et Fitz se retrouve en fait être très très doué globalement pour beaucoup de choses. Il n'y a aucune prophétie qu'il rencontre, ce qui dans un truc d'heroic fantasy qui commence avec un enfant est assez rare. En général, dans les trucs d'heroic fantasy, quand il y a un enfant, il y a une prophétie qui dit qu'il est l'élu.
Il y a une prophétie, mais la prophétie n'appartient pas au monde dans lequel vit Fitz. La prophétie existe. Le fou du roi est en fait un personnage.
Attends, on verra après. Parce que là,
il n'appartient pas à cet univers.
Attends, on verra après, parce que là, tu es en train de m'embrouiller. Je pars. Vas-y, la base. Je me mets dans le sens du gars.
Pour l'instant, il n'y a pas de prophétie.
Ouais, je me mets dans le sens du gars qui ne connaît pas, quoi. On y va.
Parce que tu n'as pas lu la fin des tomes.
Oui, on y va mollo. Donc, Fitz, donc, on le voit suivre ses différentes voies. Je me rends compte qu'apparemment, il y a deux types de magie dans cet univers. Il y a le vif qui permet de communiquer avec les animaux, de voir ce qu'ils voient et de...
C'est une magie sale qui est très mal vue.
Et il y a une autre magie qui s'appelle l'art. Qui est une magie pour pénétrer dans les esprits des humains, lire les pensées,
les obliger à faire des choses,
les influencer, etc. Apparemment, on fait croire, Fitz va essayer d'apprendre l'art après d'un maître qu'il n'aime pas et donc qui essaie de lui faire croire qu'il est mauvais. Mais il est super fort en fait, hein, Fitz, j'ai l'impression. C'est le jeune héros qui sait faire plein de choses et qui est super malaise dans tout ce qu'il fait.
Oui, mais parce qu'aussi il est le fils du roi.
Et
donc,
oui,
c'est qu'a priori, justement, et l'art dans sa famille est très présent.
J'ai cru que tu étais en train de dire que quand tu étais fils de noble, tu étais plus fort que quand tu étais fils de noble.
Non, c'est parce qu'il a hérité des caractéristiques de son père qui était quand même très fort dans beaucoup de domaines. C'est le fils du super-héros local, quoi.
Donc, voilà pour le résumé. On va suivre ce jeune qui est en train d'apprendre à devenir un assassin, d'apprendre à essayer de vivre dans un monde où il y a l'air d'avoir pas mal d'intrigues. Menace avec les pirates des côtes rouges apparemment qui a l'air assez ambiante. Je me base sur ce que j'ai lu sur les deux premiers.
Non, mais surtout c'est qu'il va aussi apprendre à vivre dans une cour dans laquelle il n'était pas normalement prédestiné, enfin oui. Où il n'était pas prédestiné à aller, quoi.
Oui, il va vivre dedans, c'est l'homme de l'ombre.
Il va découvrir un peu ça alors que c'est pas vraiment sa place.
Bien. Commençons de suite par quelque chose sur lequel je pense que tout le monde sera d'accord. Didier Graffé qui fait les couvertures est un artiste formidable.
Là-dessus on est d'accord.
Voilà,
franchement ouais, elle claque. Elle claque surtout, enfin, bon, même sur le tome 4, mais sur les premiers tomes, ça envoie du lourd.
Je ne m'abuse, je crois que c'est lui qui a fait la couverture de La Croisade de la Vie, le mouvement.
Et.
Voilà,
bonne chose ça.
Les rôlistes comprendront.
Mais du coup, forcément, dès que vous ouvrez le premier tome, vous êtes très. Très. Déçu.
Ça change Ah, c'est Rosbar qui fait les couvertures après, qui est très bon aussi,
Rosbar. Voilà, Didier Graffé pour les tomes 1, 2, 3, apparemment.
Et Jean-Sébastien Rosbach.
Et Rosbach pour la quatrième.
Aussi,
donc du coup, c'est pour ça que le style diffère un petit peu. Ouais. Mais malgré tout, ça reste très joli.
Mais bon, ça envoie du lourd. Mais dès que vous ouvrez, vous êtes un peu déçu.
Alors, moi, j'ai lu les deux premiers tomes qui sont dessinés par Surak. Et j'ai trouvé que c'était honnête. Je veux dire, ça tient la route. C'est un dessin réaliste. Plus globalement, bien foutu.
Qui a quand même un petit souci, c'est que... difficile de différencier les personnages.
C'est le petit souci. J'ai mis que c'était un classique réaliste. Ça m'a pas trop choqué. Au niveau des personnages, globalement, je les ai à peu près reconnus tous. Enfin, j'ai pas eu l'impression d'avoir trop de soucis. Non, je trouvais ça propre. Ça m'a pas perturbé.
Non, au niveau du dessin, c'est pas très perturbant.
Voilà, il y a le fou qui a des yeux de manga.
C'est...
personnage du fou, qui est apparemment le personnage mystérieux et intrigant dont on sait rien, et on va l'apprendre, j'imagine, en cours de route plus tard. Parce que Thio nous avait déjà fait un hors-sujet sur l'univers de Robin Hood et ses romans, et nous avait dit qu'il y avait peut-être un projet de série parallèle avec le fou comme héros, ou un truc dans le genre.
C'est ce qui avait été à un moment, ce qui avait eu comme rumeur, mais visiblement qui a été un peu abandonné.
Voilà. Ça, c'est pour Surak, que je trouve son style pas mal. Le dessinateur,
Tu trouves ça réaliste, enfin, moi je trouve ça moche. Après, voilà, c'est personnel. J'ai du mal à différencier les personnages, et je trouve que le trait manque de caractère, quoi.
Voilà, c'est un peu pauvre. Moi, j'ai tout, c'est classique
et
pauvre.
C'est un peu simpliste, quoi.
Ouais.
Ouais, non, moi j'ai trouvé ça. Non, ça m'a pas choqué. Je feuillette vite fait le suivant. Je trouve que le dessin a un peu plus de personnalité.
Voilà, dans l'ensemble.
Donc, si tu trouves qu'il a un peu plus de personnalité, c'est bien que ça manquait de caractère sur les premiers.
Voilà. Oui, un peu, c'est dit classique.
Ah, ben voilà, mais donc.
Je t'ai pas dit que ça cassait des briques.
Mais donc, ce que je suis en train de te dire, tu valides quand même.
C'est du classique basique, ouais.
Il y a une forme de progression, somme toute, dans à peu près tous les domaines, je trouve, au fil des quatre tomes qui nous sont pour l'instant proposés. Tant sur le dessin que sur le scénario, on va parler du scénario.
Je crois qu'il y en a déjà beaucoup plus de parus.
Il y en a plus que ça ?
Ouais, je crois qu'il y en a déjà 8 de paru, un truc dans le genre.
Mm-hmm. De quoi ? De BD ?
Ouais.
Oh. Je crois pas.
Non, le 4,
il me semble que le 4, il vient de sortir, Pierre.
Ah bon, dirais-je une bêtise ?
Ben oui, si tu veux, sur les bouquins, il y en a beaucoup plus, oui.
Mais... Il y a 13 tomes en bouquin, mais juin 2012 pour le tome 4. Pierre.
Ah oui, non, je croyais que c'était plus. J'ai J'étais persuadé d'en avoir vu plus dans les recherches tout à l'heure.
Bon, alors donc sur le scénario, toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Voilà, toi qui ne connais pas,
le scénario, alors, j'ai trouvé qu'il y avait un défaut, c'est que c'était très elliptique. On voit que c'est une adaptation de roman. Il y a beaucoup de scènes qui sont rapportées, genre, il a rencontré un tel qui lui a dit ça. Donc, on imagine qu'il s'est passé une scène de leur rencontrer ça. On imagine que cette scène aurait pu être intéressante, mais que le scénariste a fait le choix de la zapper parce qu'elle n'était pas essentielle. Ça m'a pas choqué plus que ça. Ça m'a choqué dans le sens où j'aurais aimé, peut-être, mais je me dis, tiens, j'aurais bien aimé la voir, cette scène-là. C'est dommage qu'elle y soit pas. Mais en soi, ça m'a pas gêné dans ma lecture et ça m'a pas gêné à suivre l'intrigue de façon générale. Il y a beaucoup d'ellipses, mais je pense que dans le choix de l'adaptation, quelque part à un moment, surtout quand t'as des pavés comme les romans qui existent, il fallait peut-être faire des choix pour gagner en dynamisme dans la narration de la bande dessinée. Déjà que le choix de la voix off, qui est très présente au niveau de la narration, qui est limite, je dirais que elle m'a pas ennuyé, mais elle était à la limite, tu vois. Il y aurait eu un peu plus de voix off, ça m'aurait gonflé. Là, c'est pas le cas. Ils ont réussi, je trouve, à avoir vraiment un juste milieu, une limite très proche, qui fait que ça m'a pas pris la tête. J'imagine que dans les bouquins, vu que c'est le héros qui raconte, c'est ça ? C'est du jeu ou c'est la première personne ?
C'est la première personne.
Donc, la voix off, forcément, elle est omniprésente.
Oui, mais sauf que tu as aussi toutes les actions qui se passent. Si tu veux, chaque journée de Fitz est une histoire à part entière dans les premiers tomes. Enfin, moi, c'est comme ça que j'en ai le souvenir, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu quand même. Hein. Mais pour moi, chaque journée que fait Fitz, en fait, chaque journée au château ou dans sa vie, est une histoire à part entière. Et il lui arrive des tonnes de trucs.
C'est limite Calimero tellement il y en arrive. Hein.
Voilà. Et là, moi, j'ai lu les bouquins quand j'ai...
Alors, 6 tomes.
Pour le premier cycle de l'Assassin Royal.
Je parle de BD.
Déjà paru ? Le 5 et 6, depuis juin 2012, sont parus.
Le 4 est noté comme septembre 2010. Vous avez dû dire le dépôt légal et pas le copyright.
Pardon.
Différent. Le 5 est de septembre 2011 et le 6 de septembre 2012.
Bon, enfin bon. Et du coup, voilà, avec les histoires de parution, je ne sais plus ce que je disais.
Tu parlais de la narration, de l'intrigue...
Oui, je me rejoins. Il y avait beaucoup d'actions sur chaque journée, dans chaque bouquin, tout le temps il se passe des choses. Et là, j'ai trouvé ça d'une platitude. Les découvertes que fait Fitz justement vis-à-vis de l'art, vis-à-vis du vif, sont des révélations, c'est des moments forts. Mmh. Ils sont pas mis en avant.
Ils ne sont même pas mis du tout en place.
Ouais. Et ensuite, tout ce que tu vas avoir comme intrigue au niveau de la cour, parce que sérieusement, c'est dans le bouquin, c'est un nid de vipères. Hein. Je veux dire, il y a tout le monde qui va essayer d'œuvrer dans son coin, tu as plusieurs clans. Lui, Fitz, se retrouve au milieu, mais sans savoir en fait de quel côté est le bon. Et tu as vraiment une intrigue, c'est un truc qui monte. Quoi. Et là, moi, j'ai déjà lu donc, les trois premiers tomes, j'ai pas lu le 4. Mais c'est plat, c'est mou. Alors, le Fitz, je suis d'accord que de toute façon, les héros de Robin Hobb, il y a toujours un moment où on a envie de les baffer. Mais
leur mettre un coup de pied au cul. Genre, tu te bouges le cul, t'arrêtes de te plaindre dans ton coin.
Mais ça, ça fait partie de ces
héros. Moi, je l'ai trouvé assez, dans les deux premiers tomes, je le trouvais assez proactif.
Mais justement, on est très très loin de ce qui se passe dans l'œuvre originale, de ce point de vue-là, puisque, comme le disait Thio, chaque journée a son lot de catastrophes pour Fitz. C'est là-dedans qu'il se construit. Ce personnage se construit dans la douleur. Et on n'est pas du tout là-dedans, je trouve, dans cette bande dessinée. Il arrive, c'est un bâtard, coucou, on le met à la cour, coucou, on lui donne une chambre, coucou, il va devenir un assassin. Alors, oui, on nous dit pas que c'est jouissif pour lui et qu'il s'éclate là-dedans, mais moi, je le trouve très, à la fois passif par rapport aux événements qui lui arrivent et actif quand il est en mission. Et qu'il s'en sort très bien, finalement, dans toute cette histoire-là. Alors qu'en pratique, enfin en réalité dans l'œuvre originale,
il rame quoi.
Mais il rame comme un malade, comme un fou furieux.
Le passage de bâtard à je vis au château réellement, il va passer en fait la plupart de sa courte vie, on va dire au début, dans les écuries.
Oui.
Il va être dans les écuries, il va être avec le bas peuple, il est le bâtard que personne ne veut voir.
Par contre, j'ai une question.
Vas-y.
Il perd combien de chiens dans toute la saga?
Pas beaucoup, pas tant que ça.
Aucun animal n'a réellement souffert.
Parce que là, en deux tomes, il lui en vire déjà deux quand même.
Oui, mais parce que justement, on trouve que le vif, c'est le mal.
C'est ça. C'est bien pour montrer que la magie du vif est quelque chose de très mal perçu dans ce monde-là.
Je vais conclure, je vais trancher.
En fait.
Je vais trancher. Je pense que c'est une série qui va être très sympa. Enfin, je la trouve sympa parce que je n'ai pas lu les romans. Je pense que vous, en tant que fan, en plus des romans à la base, vous avez
On a un avis qui est peut-être trop critique.
Trop critique. Vous avez trop perdu dans la transposition, en fait.
Beaucoup trop.
Vous pensez avoir trop perdu la transposition. Maintenant, moi, j'ai rien perdu vu que je le découvre. Et j'ai trouvé ça plutôt cool.
D'où l'intérêt que tu dises pour le coup. Et ceux qui n'ont pas lu les romans peuvent se plonger dedans. C'est un aperçu rapide de ce qui se passe dans l'œuvre de Robin Hobb. Mais c'est je trouve que ça ne lui rend pas justice. Voilà, ça ne lui rend pas justice.
Par contre, ce que j'aurais tendance à dire en tout cas, c'est que je trouve très fort que ce soit des auteurs français qui aient réussi à choper les droits sur l'Assassin Royal.
Ouais.
Elle est américaine, Robin Hobb.
Oui, mais...
alors que c'est le genre de truc, les gros éditeurs américains seraient peut-être plus l'arracher.
Peut-être qu'ils s'y sont pas frottés parce que justement ils se sont demandé comment l'adapter en bande dessinée. Quoi.
Et puis en même temps, enfin, je veux dire.
Enfin, vu la richesse que vous me racontez, ça aurait été beaucoup plus adapté à un format comics avec des 22 planches par mois.
Mais non, ils auraient jamais fait ça, les comics. Enfin, moi je les vois pas du tout mettre ça en comics, les Américains.
Non.
Je pense que l'histoire elle-même ne se prête pas à une adaptation américaine, quoi.
Non.
Ouais.
Ça aurait demandé beaucoup plus de tomes ou en tout cas un point de vue différent au niveau de la construction du personnage pour que peut-être qu'effectivement il y avait certains épisodes dans les livres qui auraient pu être zappés en termes d'action, mais là ce qui a été zappé c'est la construction même du personnage. Or la base des romans de Robin Hobb c'est bien la construction psychologique des personnages et là c'est tout ce qui manque je trouve là-dedans quoi.
Voilà, pour la peine, il donne des gros coups de BD sur les micros parce que ouais, ça me plaît pas, c'est déçu.
Mais c'est de la merde.
Par contre, je vais juste faire une petite remarque, un truc que j'aurais dit maintenant, c'est qu'en fait, à aucun moment sur la couve, sur la tranche, tu vois l'éditeur.
Ouais, on sait pas chez qui c'est édité.
Chez Soleil.
C'est pas Total ?
Oui, Alors là, je ne te félicite pas.
MC Productions.
Édition France Loisirs.
Ah, c'est parce qu'ils ont été achetés chez France Loisirs.
Ben voilà pourquoi c'est de la merde.
Tout s'explique.
Mais non, France Loisirs, ils rachètent les droits de refaire des éditions d'après les éditions originales. C'est Soleil à la base. Mais donc, il y a une édition France Loisirs, apparemment. Ça explique pourquoi est-ce que le tome 4, le dernier, est si tard.
Voilà.
C'est parce qu'il est sorti tardivement chez France Loisirs. Mais c'est Soleil à la base.
Enfin bon, voilà. Pour ceux qui sont fans de l'Assassin Royal, continuez à relire vos bouquins si vous le souhaitez. Pour ceux qui n'ont pas lu l'Assassin Royal, vous pouvez lire ça.
J'aurais pas autant de BD à lire. Je pense que je serais tenté par les romans, là, pour le coup. Bon, parce que moi, ça m'a donné envie.
Je tiens quand même à faire une petite dédicace à Nicolas, qui nous a gentiment prêté ses 4 tomes, qui lui-même ne les a pas encore lus. Donc, toi qui n'as pas lu les Robin Hobb, tu peux les lire. Il n'y a pas de problème.
Dans les bacs.
Paolo Pinocchio. De la bande dessinée espagnole.
De Lucas Barella.
Ouais. Si, seigneur.
D'ailleurs, c'est assez drôle quand même que ce soit un espagnol qui nous prenne un héros italien.
Oui, enfin d'un autre côté, ça a bien été un américain qui a pris le héros italien pour faire le dessin animé.
C'est pas faux.
C'est devenu un personnage de la culture populaire et qui appartient à tous les peuples qui se tiennent par la main et qui s'aiment.
Le pouvoir des trois nous sauvera.
Ouais.
Non, ça va aller.
Mais Paolo Pinocchio, lui, il aime personne. Car Paolo Pinocchio, c'est une version de Pinocchio, comment dire, il a toujours le nez long, déjà. Parce
oui, voilà. J'allais commencer par ça. J'allais dire, c'est un Pinocchio dont le nez ne grandit pas. Mais... le nez est toujours grand.
Voilà, parce qu'il ment tout le temps. Et ce Pinocchio-là, il a fait tellement de saloperies dans le monde. C'est-à-dire qu'il ment pour pouvoir se taper des filles, pour pouvoir avoir des thunes, pour boire, etc. Qu'à chaque fois, il se fait tuer et il finit en enfer. Et, bah... on a plein d'histoires où il nous explique comment il essaie de s'échapper de l'enfer jusqu'à ce qu'on y renvoie. Le moment où on le renvoie, en général, c'est deux cases, hein, plus loin que ça. On le renvoie en enfer, et puis en enfer, il essaie d'en sortir et on voit
enfin,
comment...
Enfin non, si, il repart en enfer parce qu'on l'a tué, en fait. Hein.
Oui, on l'a tué.
On l'a mis sur le bûcher, on lui a coupé la tête, on lui a tout fait.
Et donc, on essaie de voir comment est-ce qu'il va essayer de sortir de l'enfer dans chaque petite histoire derrière. Voilà, c'est plein de petites histoires courtes qui suivent un peu parce qu'à chaque fois qu'il arrive dans une situation dans l'enfer, ah, cette technique-là, j'ai déjà essayé, alors je vais en utiliser une autre. Et ce Paolo Pinocchio est vraiment une ordure.
Ah, c'est une grosse ordure. Hein.
C'est une raclure, la pire raclure qui puisse exister, je pense.
Mais d'une certaine façon, on ne sait même pas bien pourquoi est-ce qu'il ment. On ne sait pas quel est son objectif dans
l'un des objectifs, à un moment, c'est d'aller dans l'orgie que fait un des démons
ouais, mais
aux enfers.
Même ça, on n'a pas l'impression non plus que ce soit le kiff de sa vie. Quoi. Finalement, il y atterrit par hasard hein, à l'arrivée. Ouais, on ne sait pas trop ce qu'il fait dans la vie, on ne sait pas trop ce qu'il veut dans la vie, mais il le fait.
Oui, 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 il y a la police des enfers qui est corrompue, forcément.
Oui, mais t'as vu qui c'est qui fait quoi.
Oui. Mais oui, oui, c'est...
Il y a Musclor qui paye son amende
en liquide.
En liquide.
Oui, parce qu'il y a des jouets.
Il y a des jouets qui sont en enfer.
Enfin, moi, j'ai trouvé ça très... Allez, bon, attends, prenons les choses dans l'ordre.
Allez, on fait les choses dans l'ordre.
Le dessin.
J'ai marqué efficace et drôle.
Moi, j'ai marqué classe.
Le dessin est super fun. Il y a un côté... moi, j'ai mis contre-pied. Il y a un côté qui est à la fois ce côté un peu enfantin qu'on peut avoir, mais
enfantin
aussi
et désuet, enfantin des vieux contes, ouais. Et en même temps
underground.
Ouais.
En parallèle, c'est une ligne claire, très propre, avec plein de petits traits un peu à gauche à droite pour donner du relief.
Mais à côté de ça, tout un tas de petits détails de petits monstres.
La planche sur l'orgie est très belle.
Oui.
C'est vraiment une belle image. D'ailleurs, je pense que c'est celle que l'éditeur a envoyée un peu de partout pour faire la promo de la BD.
Le sexe, ça paye.
Ouais.
Ça vend.
Enfin, c'est vraiment de très très belles images. C'est très très propre. Un choix de couleurs aussi.
Oui.
Voilà. Des influences très variées. Il y a même du Hellboy dans les influences, j'ai l'impression. C'est assez surprenant de voir une planche qui fait vraiment penser à du Hellboy au milieu.
Pendant que j'y pense, je salue la qualité de l'édition.
Oui.
Voilà, j'ai trouvé que le choix des papiers, la tonalité du papier, hein, parce que le papier n'est pas un papier blanc glacé, on est sur un papier légèrement jauni et mat, ça correspond très bien justement à cette ambiance un petit peu désuète des contes pour enfants.
Oui, mais bon, moi c'est un éditeur, bon, je l'ai déjà rencontré plusieurs reprises, que j'aime bien en général, je trouve qu'ils font du beau boulot, c'est Tanibis, donc on n'avait pas noté le nom de l'éditeur. Et c'est vrai qu'en général, ils font un travail que j'apprécie. J'avais beaucoup aimé le dernier astronaute, qui était vraiment très très bien. Donc,
parenthèse fermée.
Le dessin, voilà. Moi, je trouve qu'il y a ce côté un peu contre-pied, mais je veux dire, quand tu vois la gueule qui tire ce Pinocchio, tu sais qu'il est pas net, quoi. Tu sens qu'il va, enfin, tu fais pas confiance à un mec qui a cette tête là.
Ouais, mais comme voilà. C'est Pinocchio, que c'est un personnage.
Il a quand même une belle tête de pervers, quoi.
Ah oui, il a une bonne tête de pervers, on est bien d'accord. Hein.
Parce que c'est une espèce d'éternel sourire avec ses petits yeux comme ça qui te regardent.
La paupière basse. Là.
Le scénario, j'ai mis péripétie.
Perversion.
Moi, j'ai marqué strip parce que c'est des espèces de petites histoires comme ça, racontées les unes à la suite des autres. Même dans une histoire, c'est plein de petites histoires. Mmh. C'est comme ça que j'ai visualisé la chose.
Ouais, bah tu rejoins un peu. Moi, j'ai mis péripéties parce que c'est un enchaînement de petites aventures qui mènent pas vraiment nulle part. C'est divertissant, on passe un bon moment, on rigole bien. Moi, c'est un humour qui m'a beaucoup plu. J'ai bien accroché.
Alors voilà. Moi, j'ai pas accroché. En fait, je pense que pour arriver à vraiment s'éclater, il faut rentrer là-dedans avec le bon état d'esprit. Et là, quand je l'ai lu, je sortais de la lecture de l'album dont on va parler juste après, qui n'est pas du tout dans la même veine. Et j'étais pas du tout dans le bon état d'esprit pour lire Paolo Pinocchio. Donc j'ai trouvé qu'il était bourré de qualité, ce bouquin. Mais malheureusement, je ne me suis pas poilé comme j'aurais dû me poiler, je pense. Donc attention à choisir le bon moment pour le lire, pour vraiment en profiter. Moi, je me suis planté, tant pis.
Et toi
Je me suis plutôt. Alors j'ai trouvé que voilà, c'est assez subversif, hein, parce que
oui,
y a beaucoup de références à d'énormes, enfin plein une quantité de contes.
Oui.
Et même Cthulhu aussi.
Même de vieux contes aussi, parce que du coup, c'est pas son.
Il y a Cthulhu dans la BD.
Il y a Cthulhu. Bon, qui est avec un caractère design particulier. Mathieu, on t'a coupé tous les deux. Maintenant, c'est à toi.
Voilà, j'ai rien.
Comment ça, on coupe Thio, mais depuis quand?
C'est quoi, je te serais grillé une dehors. Hein. Je me laisse. Allez, à plus les gars.
Non, vas-y, elle était bien. T'étais bien là.
Ouais, mais non, là, non. Tu comptes quand même pas que je me rappelle ce que j'étais en train de dire. Mais
coupé deux fois. Bon, reprenons. Oui, donc des péripéties, ça part dans tous les sens. C'est drôle, plein de personnages sympas et rigolos. Une belle édition. Il y a aussi des strips, des vrais strips assez rigolos. Un petit jeu aussi, une sorte de labyrinthe débile, oui, où il faut réussir à l'amener à la sortie.
Ça y est, je sais, Mathieu, tu parlais de Cthulhu et des personnages de conte qui étaient à l'intérieur.
Ah ouais, mais non. Et donc ?
Et une conclusion très sympa de la traductrice, mmh, qui revient un peu sur l'origine de cette bande dessinée, comment elle a été parue. Apparemment, c'était beaucoup dans du fanzina ou des petits magazines un peu underground. Moi, j'ai passé un très bon moment. Ça coûte 16€ aux éditions Tanibis. Ça vaut le coup.
Avec le soutien du Centre National du Livre.
Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'un truc édité sur un aussi beau papier ne fait que 16€, peut-être.
Mm-hmm. Mars, aller-retour, de Pierre Vazem, chez Futuropolis.
Tiens, on va demander à quelqu'un d'autre que moi de raconter l'histoire.
Hein ? Vas-y,
Zach. Vas-y, allez.
C'est compliqué.
Alors, c'est l'histoire d'un gars qui n'a plus de boulot, qui n'arrive pas à la
journée. C'est Pierre Vazem d'ailleurs. Hein.
Oui, c'est, ouais, l'histoire de Pierre Vazem.
Qui n'a, oui, mais enfin, j'étais pas, moi, je cite pas les sources, tu vois.
donc, pas une balance.
Je suis pas une balance. Mais le mec, il est dans la merde. Je vais pas non plus en plus s'enfoncer, quoi. donc, c'est l'histoire d'un gars qui n'a plus de boulot, qui a du mal à joindre les deux bouts, qui dans son couple visiblement est assez libre parce qu'il a le droit d'avoir plein de maîtresses, mais les maîtresses ça coûte de la thune et donc comme il en a plus, ben, il a du mal à tirer son coup à gauche à droite. Il a quand même aussi deux gamins dont il faut qu'il s'occupe.
Et en fait,
une femme qu'il aime aussi, même si elle le laisse un peu faire beaucoup de choses. Et du coup,
c'est une raison de plus pour l'aimer, peut-être.
C'est ça, ouais. Oui, enfin, que lui, il l'aime, mais peut-être qu'elle, on se pose la question finalement, oui, à la fin, pourquoi.
C'est vrai, parce que ça a l'air d'être un con quand même.
Ça a l'air d'être un gros con quand même. Et donc, ce gars, il a plus une thune, il a plus de boulot. Il a plein de factures à payer et il a toujours des projets qu'il a sans cesse repoussés et repoussés encore. Et finalement, il va faire le projet qu'il avait tant rêvé de faire. Mars, aller-retour.
Voilà. C'est une bonne présentation. Juste un tout petit rajout, c'est qu'en fait, il se présente lui-même comme quelqu'un de très feignant. Et alors qu'il reçoit cesse des lettres de menaces d'expulsion, de factures impayées, voilà. Il se qualifie d'imposteur.
Parce qu'en fait,
et de feignant.
Parce qu'il se dit qu'en plus, il dessine super mal et que ça se trouve, en fait, c'est pour ça qu'il n'a plus de boulot. C'est parce qu'enfin, les gens se sont rendus compte que c'est un imposteur.
Il se complaît dans sa merde, en fait.
Bah, il ne se donne pas la peine de s'en sortir, surtout.
Bah, mais à mon avis, cette idée-là, pour certains auteurs, de dire que ce ne sont que des imposteurs et qu'ils dessinent super mal et que leur boulot est vraiment pourri et qu'ils se détestent, à mon avis, je pense que beaucoup de personnes qui sont dans la création,
oui,
doivent avoir cet avis-là sur leur propre travail. Hein.
Et certains devraient.
Et donc il se retrouve, en fait, il va faire une retraite. Hein, il va faire une retraite dans une cabane où il arrive à voir Mars. En fait.
Ouais, en fait, voilà,
ça part en vrille.
C'est pour ça que c'est compliqué d'expliquer sans spoiler le bouquin.
C'est qu'en fait, il va y avoir différents. Donc, moi, je classerai la chose comme ça. T'as une histoire vraie et t'as une histoire dans laquelle tu tombes dans le fantastique.
C'est ça.
Et dans cette histoire fantastique, notre personnage va se déconstruire pour finalement reprendre pied dans la vie réelle.
Ouais, c'est un peu truc chamanique, tu vois.
Mais c'est ça. En fait, c'est exactement
on en
ça.
Est pas loin.
Il se noie dans son onirisme, dans son rêve de Mars, de vie sur Mars.
Et dans l'alcool.
Bon, ceci étant le moyen, hein, pour finalement arriver à résoudre les problèmes qu'il a dans la vie réelle, dans la vie concrète, en termes d'argent, en termes de vie de famille, en termes de vie de couple, l'attachement à sa femme, l'attachement à ses enfants, les promesses qu'il leur a fait,
les
liens avec sa famille, avec son père, avec la religion.
Je te coupe pour une fois, tu vois, je suis pas sûr qu'il résolve son problème d'argent. Parce que pour moi, en fait,
ils sont un bouquin chez Futuro, quoi, merde.
Ouais, le bouquin chez Futuro. Oh.
Non, mais effectivement, la résolution des problèmes d'argent n'est pas du tout explicitée sur la fin.
Mais je pense surtout c'est qu'il a résolu.
Mais il est enfin heureux dans sa vie, alors qu'il était malheureux dans sa vie. Et il était malheureux riche, comme il était malheureux pauvre.
Et en fait, maintenant, il est heureux dans son relationnel avec les autres.
C'est ça. En fait, c'est ce qui est dans les deux premiers tiers du bouquin où il dépeint sa vie, où on comprend qu'il a eu du succès avec certains de ses bouquins, et où du coup il avait de l'argent, il y avait de la drogue, il y avait des filles, etc. Alors qu'il était déjà marié, etc. Ça le rendait pas forcément heureux, ça ne le remplissait pas non plus. Il est tombé en désuétude, on va dire. En tout cas, il n'avait plus de contrat et les factures ont continué à s'accumuler les conquêtes féminines ont continué à se multiplier, mais là aussi ça coûtait de l'argent. Donc bref, ceci entraînant cela, il s'est retrouvé sans une thune, avec une tonne de factures, mais toujours aussi malheureux. Donc il avait l'argent, la reconnaissance, il était malheureux. Il n'a plus tout ça, il était quand même malheureux. Seul point commun dans toutes ces situations-là, une femme et des enfants, et le boulot qu'il a toujours rêvé de faire depuis tout petit. Et finalement, cette retraite, c'est un petit peu sa bouée de sauvetage, c'est la thérapie salvatrice pour arriver à sortir la tête de l'eau.
Mais finalement, tu vois, là, je réalise en parlant du bouquin que je crois que j'ai plus de plaisir, en fait, à en parler avec vous après coup que j'ai pris de plaisir à le lire.
Ah, moi, je me suis régalé à la lecture. Hein.
Non, en fait, non, enfin, je t'explique comme ça. C'est le départ du bouquin, je me suis dit, c'est chiant. Plus j'avançais, plus je trouvais que c'était chiant. Ça a commencé à me plaire quand justement tu as vraiment toute la déconstruction du personnage qui se fait. Et la fin, ça m'a paru bien. Mais là, en parlant, j'ai l'impression que je trouve encore plus de profondeur, en fait, dans le bouquin, et que finalement j'en ai un excellent souvenir, alors que pour autant j'étais pas emballé sur le coup.
Moi, j'ai été très emballé sur le coup. Dans l'histoire de vouloir faire une splash page, c'est sur ce bouquin que j'aurais fait une splash page. Parce qu'il y a énormément de thèmes qui sont abordés. C'est une forme d'autobiographie thérapeutique, puisqu'il se raconte lui-même. Et ça lui permet de réfléchir sur sa condition, sur d'où il vient au niveau de sa famille, d'où il vient au niveau de sa vie de couple, et finalement ce vers quoi il veut tendre, parce que c'est ça qui lui manquait dans sa vie, un objectif, ce qu'il a, pourquoi est-ce qu'il l'a, quoi ça lui sert et qu'est-ce qu'il peut en faire, et comment se rendre heureux dans la vie, voilà. Et c'est un très 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 joli livre. Alors par rapport à ce que tu disais, effectivement tout le début peut paraître très 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 pénible à lire, mais peut-être que j'ai réussi à voir vers où il allait aller grâce au titre. Cette histoire de Mars aller-retour, tout de suite, avant même de lire le début du bouquin, j'ai compris qu'il y avait une espèce de quête initiatique. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai anticipé. J'aurais pu me planter totalement, mais c'est comme ça que je l'ai anticipé. Et c'est ce qui m'a tenu en haleine sur le début du bouquin, justement. Pour arriver à cette partie chamanique, hein, pour reprendre le terme que tu utilisais tout à l'heure, Pied.
Moi, il y a quelque chose qui m'a plu, c'est cette espèce de glissement dès le départ de la réalité. Les noms qu'il utilise, par exemple, quand il parle d'autres personnes, c'est pas leur nom. C'est-à-dire que Fritz, je crois que c'est Frédéric Peters, en fait. Le Tim, là, qui est son pote et qui l'a travaillé, en fait, c'est Tom. Il les a changés suffisamment peu pour qu'on puisse, de toute façon, le retrouver.
C'est-à-dire dans le livre.
Ouais, c'est-à-dire qu'il prend un écart. Même dans la partie réaliste, il prend un léger écart vis-à-vis de la réalité pour qu'on ait toujours le doute pour savoir. Enfin, il se protège un peu lui-même, je pense, en tant qu'auteur, pour qu'on ait toujours le doute pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce qu'il raconte, où est-ce qu'il se situe par rapport à tout ça, et qu'on puisse prendre du plaisir quelque part à le lire sans se dire mais c'est qui ce con qui nous raconte sa vie alors que ça a l'air d'être un. Enfin. C'est assez ambigu. On sent que ce mec-là a l'air d'être un connard qui se complaît dans ce côté-là, tout en aimant énormément sa famille. Moi, c'est quelque chose qui m'a...
Moi, je dirais pas qu'il se complaît dans ce statut. Il sait pas s'en sortir de ce statut. Il est un peu trop feignant pour se sortir de ce statut. C'est comme ça, je trouve, qu'il se présente dans ce bouquin. Il a une analyse de la situation qui est très objective. Il ne se cherche aucune excuse. Il se décrit tel qu'il est, il se dépeint tel qu'il est, il explique pourquoi il a plus d'amis, il explique pourquoi il est seul et qu'il n'y a que sa famille, et il ne comprend même pas pourquoi sa femme reste là, finalement.
Oui.
Il est très objectif par rapport à tout ça. Mais on arrive quand même à s'attacher un petit peu à ce personnage qui se dépeint lui-même comme un gros connard, effectivement.
Le dessin.
Épuration soignée.
C'est vrai que c'est un trait assez simple, qui va à l'essentiel. Même s'il se permet de beaucoup jouer sur des ambiances et un coup de crayon beaucoup plus marqué pour les décors, pour la forêt, pour les ambiances.
Les décors sont beaucoup plus soignés que les personnages en eux-mêmes, qui sont très simplistes. On est limite sur du Cookie Flup, hein.
C'est ça. Ouais, moi, j'avais dit simpliste en fait pour les personnages, mais pff, Dieu qu'elle a de la gueule la cabane, quoi.
C'est clair.
Oui, la cabane, elle est trop belle.
Ouais. Attends, et puis c'est hérisson avec un dossard.
Oui, le hérisson avec le dossard, fallait y penser. Ça.
Ouais, c'est voilà, moi dessin que
par contre, t'as aucune réponse là-dessus. Tu sais pas du tout le hérisson avec le dossard.
Non, non, il y a pas de réponse. Le puis il y a des photos intégrées, plutôt pas mal intégrées pour ouais, le coup, très, oui, des photos de Mars et de la Terre.
Pour en revenir sur l'émission précédente
64, sur Tokyo.
Là au moins l'intégration de la photo d'une part est utile et d'autre part est très bien faite.
Voilà. Bon, c'était un peu plus facile aussi avec le sujet qu'il avait à intégrer, je pense.
Oui, enfin bon.
Oui, voilà.
Si on part du principe qu'on veut intégrer une photo à tout prix, même si c'est inutile et mal fait.
Ne revenons pas sur Tokyo. En tout cas, c'est une BD qui nous a beaucoup plu. Thio, ça lui a beaucoup plu d'en parler parce qu'il l'a trouvé encore meilleur. Isaac, toi, ça t'a plu de la lire. Moi, ça m'a plu de la lire. Ben, on la recommande. C'est chez Futuropolis. Et ça coûte 20 euros. C'est un beau petit livre.
Il est one-eyedly recommandé. Yeah. Par contre, approved. Par contre, le truc, c'est que j'aurais vu en couvre, j'aurais bien aimé la cabane. Plus que la forêt. Parce qu'en fait, au dos, t'as la famille en train de dessiner sur Mars. Hein? T'as la cabane qui est tout au fond, mais je trouve que cette cabane, elle aurait dû être devant.
On a compris, la cabane t'a plu, Mathieu. Mais ça, c'est ton côté scout qui revient.
Ouais, c'est ça.
Les amis de Pancho Villa, de Léonard Cheminot, et d'après James Carlos Blake. Si j'ai bien compris, ou l'inverse.
C'est ça.
Non, c'est ça. Hein. Ouais, je me suis pas planté dans les auteurs. Ouais, oui, c'est ça. Chez Rivage Casterman Noir. Alors, c'est Rivage Noir Casterman ou Rivage. Enfin, j'en sais rien, mais voilà.
Mais c'est noir.
Ouais, c'est noir.
Et c'est bien.
Et c'est bien. Allez, c'est à l'autre qui n'a pas raconté de raconter l'histoire. En plus, elle est dure, ça la raconte.
Alors, donc là, déjà, juste pour le coup, la couve.
Elle tue sa mère.
Elle tue sa mère. Carrément. Mais.
Elle a rien à voir,
elle
avec,
a rien
le
à voir avec le dedans. Mais...
Si, elle a quelque chose à voir. Ah, mais si, elle a quelque chose à voir.
Ah, pourquoi est-ce qu'elle a quelque chose à voir pour toi?
Ben, en fait, l'ombre de la mort plane en permanence tout le long tout le long de ce livre.
Et la mort fume des cigares.
Et la mort fume des cigares.
Et pourquoi, et pourquoi est-ce que le chapeau est si...
Alors, en fait, c'est la représentation du dieu Quetzalcoatl.
Mais pourquoi elle est...
Parce qu'il est représenté comme un serpent à plumes.
Non, mais c'est pas des plumes, c'est des fleurs.
Mais non, mais c'est des plumes, là.
Non, il y a une plume et il n'y a que des fleurs.
Non, tous les trucs rouges, c'est des plumes.
C'est des fleurs. Je t'assure.
Bon, on va pas passer deux heures sur la couverture. Parlez-moi du contenu, ça raconte quoi, les amis de Pancho Villa ?
Donc, l'histoire, on va suivre l'histoire de Pancho Villa, donc un révolutionnaire mexicain. Et on va suivre donc l'histoire de Rodolfo, qui était un compagnon de Pancho Villa. Donc c'est lui qui nous raconte l'histoire, on va dire.
C'est plutôt lui le personnage
principal. C'est lui le personnage principal, mais il va nous raconter toute l'histoire de Pancho Villa au travers de son histoire à lui. Voilà. Lui, c'est un peu un bourrin.
Un peu beaucoup.
Et ce bourrin en question va faire partie de l'armée de Pancho Villa. Et on va raconter toute cette histoire-là. Donc l'histoire de la conquête du Mexique, les femmes, l'alcool, les meurtres, les saccages, les pillages, les retournements de situation, la politique mexicaine au cours du temps.
Les alliances et désalliances.
L'alliance avec l'Amérique et ainsi de suite. Voilà,
c'est très, 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 très intéressant sur le fond historique. C'est très intéressant sur le fond des personnages et de leurs relations. Et avec des petites tranches de réflexion personnelle, de rêves des personnages qui se voient avec la femme de machin en train de tuer Bidule, et toujours l'ombre de cette mort qui est omniprésente. Ils ont tous peur de mourir et peur de l'après-révolution finalement. C'est-à-dire qu'ils savent vivre dans la révolution, ils savent vivre dans cette conquête.
Dans la violence.
Dans la violence, c'est vraiment des révolutionnaires, pas vraiment des mercenaires, mais des révolutionnaires dans l'âme. Mais en dehors de la révolution, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils savent faire? Rien.
Moi, pour le scénario, j'ai mis rire jaune, parce que c'est vraiment une BD où t'as envie de rigoler, parce qu'il y a des séquences assez absurdes.
Pancho Villa qui se marie avec toutes les femmes,
c'est ça.
Oui,
parce que c'est meilleur de coucher avec une femme mariée qu'une femme qui ne l'est pas.
C'est lui qui le dit.
Voilà, il y a un côté un peu absurde, etc. Mais tu te dis, oh mon Dieu, mais c'est vrai ce que je suis en train de dire.
C'est ça.
C'était des brutes comme ça. Je veux dire, le héros, là, Rodolfo, il est obligé de tuer quelqu'un de sang-froid pour rentrer. Quelqu'un qu'il ne connaît pas, comme ça.
Il est obligé de tuer quelques-uns de sang-froid.
Oui. Pour de rentrer. Enfin, c'est assez hallucinant. Tu les vois qui vivent dans une violence, mais sans aucune, limite une complaisance. C'est leur quotidien.
Et ils savent pas sortir de ça. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais plus à quel endroit, il y a une discussion entre les personnages qui fait ressortir cet aspect-là. C'est-à-dire que ils se demandent le jour où effectivement s'ils arrivent à gagner ou s'ils perdent, peu importe, mais si la révolution se termine et que cette ambiance de meurtre, de crime, de prise d'otage, de on pille des trains, etc., le jour où ça s'arrête, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs 10 doigts? Ils savent là, tuer, ils savent faire la révolution, ils savent faire la guerre, mais
ils veulent mourir, ils veulent mourir au combat, mais ils vont pas se rendre facilement.
C'est ça. En fait, il faudrait qu'ils meurent au combat, mais ils veulent pas mourir au combat en même temps. Mmh.
Le dessin.
Au-delà du fait que ce soit très beau,
bah, j'ai mis beau.
Il y a un très beau travail sur les couleurs.
Ouais, il y a un très joli travail sur les couleurs et sur les. Enfin, les cases sont dans l'ensemble pas très grandes, mais très remplies. Il y a une recherche quand même de mettre plein de petits détails sur. Même si c'est pas grand-chose, quelqu'un qui est couché au sol, il va y avoir. Des petits cailloux, des petits dessins sur le tapis, des machins. Voilà, on est dans de la recherche quand même de dessins complets, remplis d'un travail fourni. On n'est pas dans la facilité, quoi. Et les couleurs sont très très belles.
Ouais, un travail sur la couleur qui est très sympa. Et puis il y a aussi une sorte de dynamisme. C'est-à-dire que c'est un dessin, je dirais, semi-réaliste, limite humoristique hein, sur certains points. Mais vraiment, on sent les personnages bouger, on les sent en mouvement. Là, je suis tombé sur une planche au hasard qui est rigolote, tu vois. Il est en train de tâter les seins d'une femme en disant quelle arrogance, quelle douceur. Enfin, c'est.
Et on sent la lourdeur du sein.
Voilà. Enfin, on voit la gueule aussi de la femme qui a les grands yeux, mais là, c'est vraiment très exagéré, très caricatural.
C'est parce qu'aussi, en fait, Pancho Villa est en train de tâter les seins de sa femme, mais en expliquant à ses acolytes comment est-ce qu'ils sont beaux. Parce qu'ils sont présents et ils le regardent.
C'est oui, ça. Alors qu'elle est dans la baignoire.
Voilà, donc non, il y a quelque chose. C'est des personnages qui sont grands guignolesques, quoi. C'est ça.
Mais ils sont bruts de décoffrage. Il n'y a pas de. T'as l'impression qu'il n'y a rien qui a été édulcoré, en fait.
Et j'ai trouvé aussi qu'il a bien réussi à faire passer les moments où le temps passe. C'est-à-dire qu'il nous raconte des petits éléments, et d'un coup, il va y avoir plusieurs années qui vont s'écouler, plusieurs mois, et il arrive vraiment à bien nous le passer. C'est une adaptation de roman qui arrive à faire oublier qu'il y avait un roman derrière, en fait.
Complètement. Là où, justement, tout à l'heure, on parlait de l'Assassin Royal et où on trouvait que ça rendait vraiment pas justice au bouquin.
J'allais te dire, c'est parce qu'on n'a pas eu le roman qu'on disait.
Oui,
en fait.
Mais on est sur un travail qui est plein. Alors que même toi, tout à l'heure, tu te rendais compte, Pierrick, qu'il y avait des choses qui manquaient
qui
dans l'adaptation
en
bande dessinée. Là, je vois pas ce qu'on pourrait mettre de plus. Alors, s'il y a plus dans le roman, je veux bien me foncer l'acheter parce que ça doit être vraiment génial. Mais là, en attendant, cette œuvre-là, cette édition-là, tout est complet.
Il y a forcément plus, je pense, dans le roman.
Bien évidemment. Mais c'est voilà. Je ne vois pas quoi rajouter de plus dans une adaptation en bande dessinée.
En tout cas, on a bien aimé. Il est aussi recommandé.
Il est lui aussi recommandé par le One Eye Club.
Ouais.
Et le petit tamponné. Coup de tampon.
Blotch. Page.
L'Afghanistan, site touristique magnifique, lieu de modernité. Et oui, la plupart des ruines, telles les statues des deux Bouddhas, ont été détruites pour laisser la place à une ère moderne et pleine de nouveautés. Au progrès, ces champs de pavots, d'opium, magnifiques, qui permettent une économie florissante. C'est l'endroit idéal pour prendre son appareil photo, numérique, et ramener des images de tapis, par hasard, qui font l'économie de l'Afghanistan, et qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires et taguées sur nos profils Facebook. Malheureusement, nous sommes en 1986, et la vie n'est pas aussi drôle. Le photographe de Emmanuel Guibert et Didier Lefebvre. On a parlé plein de choses rigolotes aujourd'hui, on est sur quelque chose d'un petit peu plus grave là
chez,
derrière.
Chez Dupuis.
Chez Dupuis, collection Air Libre en 3 tomes. Alors, malheureusement, Isaac les a pas lus parce qu'on me les a prêtés et que je préférais y faire attention car c'est. Voilà.
Mais vas-y, dis et comme dis que je fais la cuisine avec, en fait.
Voilà, Isaac est un sagouin et il fait n'importe quoi.
Non, mais comme je savais pas quand c'est que je devais les rendre, je préférais les avoir sous la main, en fait.
Ouais, non, ça va, j'ai compris.
Ça nous raconte les aventures de donc Didier Lefebvre, qui est parti avec Médecins Sans Frontières en Afghanistan en 86, alors que l'Afghanistan était occupé par les Russes, pour suivre un convoi humanitaire entre le Pakistan et l'Afghanistan. Et le mec, en gros, c'est son premier gros voyage comme ça en zone de guerre. Et on va suivre sa vie, comment ça se passe, comment on découvre, comment on s'adapte, comment on rame, comment on peut être un fou furieux et prendre des décisions terribles derrière. Et c'est quelque chose d'assez fantastique. Et puis comment aussi on souffre et comment est-ce que notre corps s'adapte aux conditions de vie extrêmes dans lesquelles on se retrouve et à tous les risques que prennent ces gens de Médecins Sans Frontières pour aider des populations dans la détresse. Emmanuel Guibert est un auteur moi que j'aime beaucoup. Je l'avais découvert sur La fille du professeur, qu'il avait fait avec Sfar, qui était vraiment une très 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 bonne bande dessinée. Il a aussi travaillé sur des BD un peu plus standards. Alors, il paraît que La guerre d'Alan est magnifique. Je ne l'ai malheureusement pas lu. Il y a une suite d'ailleurs qui vient de sortir à l'association. Il a aussi bossé sur des tonnes de trucs, Patate douce, Sardine de l'espace, un truc d'humour. Oui, Sardine de l'espace, ça en jette, hein, comme ça.
L'attaque des tomates vertes.
Bref, moi, c'est un auteur que j'appréciais beaucoup. Et il paraît que dans son côté un peu réaliste, il était beaucoup plus intéressant que dans son côté humoristique ou jeunesse. Et ben là, il a décidé de travailler avec son ami Guy Lefebvre à mettre ses photos... utiliser les photos pour raconter l'histoire et à dessiner ce qu'il ne pouvait pas montrer et ce qu'il n'y avait pas derrière. C'est grandiose. Voilà. Premier tome, en gros, on le voit qui découvre un peu comment ça se passe, qui prépare l'expédition, qui s'apprête à partir. Deuxième tome, ils sont partis, ils sont dans l'expédition et ils rament qu'ils n'en peuvent plus. Troisième tome, il décide de rentrer tout seul par un chemin.
Le troisième tome, c'est la folie en fait.
Hein. Oh, putain, c'est ce que tu dis, mais le mec, il a ramé qu'il n'en pouvait plus pour faire ce qu'il veut. Il dit hey, en fait, continuez l'expédition, moi j'en ai marre, je rentre tout seul. T'en as ramé comme un bourrin pour venir jusqu'ici, tu vas rentrer tout seul. Ouais, mais tout seul et tout. Sachant que le mec, il se trimballe son appareil photo, ses objectifs et des tonnes de péloches parce que. On n'était pas à l'époque du numérique.
Voilà, contrairement à ta petite présentation de tout à l'heure où tu parlais d'appareils photo numériques, là, on n'est pas du tout sur du numérique. Hein.
Et qu'il est en zone de guerre, quoi. Il est dans des situations terribles.
Oh, zone de guerre. Si l'Afghanistan était en guerre, on serait au courant quand même. Hein.
Bref, c'est vraiment une BD fantastique. Didier Lefebvre est décédé il y a peu, en 2007. Il venait d'avoir un fauve à Angoulême, dans la collection Essentielle. Il est mort d'une crise cardiaque à son domicile. Je pense que tout ce qu'il a fait subir à son corps le long de ces années de reportage ont dû être assez terribles, ont peut-être mené à ça, j'en sais rien, je ne connais pas sa vie. En tout cas, il faisait des photos magnifiques. Moi, rien que ces photos, elles sont superbes. Il faut signaler aussi que Le Mercier est crédité sur la couverture. C'est le coloriste et le metteur en page. Et effectivement, la mise en page est très importante parce que l'intégration des photos avec les cases de BD est vraiment très très bien faite et très bien menée. Voilà. Moi,
on est sur une présentation façon pellicule.
Oui.
Justement, avec que ce soit des photos ou que ce soit des dessins, on est sur cette idée-là de pellicule, je trouve. On est sur des bandes qui ont quasiment sur chaque planche les mêmes dimensions, hein. Et avec ces rajouts de texte qui soient en dialogue ou qui soient en narration, qui pourraient être des post-it rajoutés sur ces morceaux de péloche.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il s'est permis de pas choisir aussi, c'est-à-dire que vu que c'est pour de la BD, il s'est permis parfois de prendre toute une bande de pellicule avec. Toutes les images, le photographe est obligé de choisir la photo qu'il va falloir. L'auteur de BD est obligé de choisir le moment qu'il va falloir. Et là, en montrant ces plusieurs images, il crée des séquences où.
Ce qui est intéressant, c'est que justement, tu vois celles qui ont dû être choisies, parce qu'il y en a certaines qui sont entourées en rouge, donc du coup, c'est qu'elles devaient être bonnes.
Celles choisies et celles qui sont barrées.
Et celles qui sont barrées ou celles qui sont du coup pas, qui sont juste voilà dans le défilement, on va dire, c'est le film. et basse, quoi. Tu as le mélange du documentaire et du dessin qui est génial.
Et puis, alors, comment as-tu pensé, toi?
Tu m'as présenté ça. On était, je retranscris un petit peu dans nos vies perso. On était en vacances dans le sud-ouest, bien tranquille, dans une petite maison sympa. Et tu m'as dit, ouais, je t'ai amené ça, tu vas le lire et tout, faut que tu le lises. Bon, ouais. Et je crois
Tintin en Afghanistan.
Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, sauf que du coup, j'ai lu ça en quoi? En une journée?
Ouais.
Deux jours à tout péter.
Puisqu'on faisait des trucs quand même.
C'est ça.
Et je peux garantir qu'il y a quand même du texte à lire. Hein.
Ouais, mais c'est riche. Hein. Je me suis régalé.
Moi, j'ai un regret, c'est que souvent les photos sont trop petites.
C'est, oui.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Un regret, c'est que t'es pas assez. Les photos sont pas assez mises en avant. Mais par contre, le travail qui a été fait dans la BD est génial. Ce mélange de photos, de dessins, de textes est vraiment excellent. Tu rajoutes à ça le fait que, le travail de toute l'équipe de MSF et du photographe. C'est des fous furieux.
Des dingues.
Je sais, voilà, je trouve ça admirable. Et en même temps,
c'est la femme, j'ai oublié son ouais, son prénom.
Mais c'est de la pure folie tout ce qu'ils font.
Qui arrive à la limite passer pour un homme en Afghanistan, quoi. À se faire traiter comme un homme en Afghanistan, c'est une chef. Juliette. Ouais, c'est impressionnant.
Enfin, je me suis vraiment régalé. Alors, je sais même pas du coup si tu peux encore les trouver d'ailleurs, les trucs.
Oui, non, tu peux les trouver. C'est une belle vente. Il y a un intégral d'ailleurs qui existe.
Même sans lire les textes, simplement comme ça en feuilletant, on sent l'émotion. On sent la lourdeur, on va dire la charge émotionnelle, la charge de peur qui se traduit dans ce bouquin, enfin dans ces trois bouquins là. C'est très très fort.
Oui, non, c'est très très fort. À la fin du dernier tome, il y a un petit truc un petit article qui nous explique un peu ce que sont devenus tous les personnages qu'on a rencontrés. Puis aussi, moi, ce que je trouve intéressant surtout, c'est qu'on a une image du peuple afghan qu'on n'avait pas du tout, en fait. Moi, j'imagine les Afghans. On a forcément le filtre des Américains sur les Afghans, donc forcément, je pense que c'est un peu déformé. Moi, j'ai quelque chose qui m'a marqué, c'est la relation des vieux avec les enfants, par exemple.
Ouais. Je te coupe, mais ce qui était intéressant justement sur les Afghans, c'est que il prend les photos, il te raconte l'histoire, mais il n'y a pas de prise d'opposition. C'est la guerre entre donc l'Afghanistan et les Russes. Mais il y a pas un qui a raison. Il n'y en a pas un qui a raison ou quoi, c'est juste on te présente la vie des Afghans à ce moment-là.
Quand ils te montrent les opérations, les trucs comme ça, tu fais.
Ouais, oh, c'est assez réaliste.
C'est réaliste, c'est de la photo.
Ah mince, c'est pour ça alors.
Ouais, tu fais. Oh. Et puis même cette série de photos où tu vois tout, en fait, les moments différents, etc. Waouh, c'est violent. Il te montre certaines photos qu'il prend au hasard aussi, où il a réussi à faire le cliché, quoi, avec ce môme là au milieu des deux gars armés, enfin.
Pour info, toutes les photos sont en noir et blanc. Hein.
Oui, c'est beaucoup de photos en noir et blanc. Le reste de la BD est en couleur, par contre. Et aussi, dans le dernier, alors par contre, j'avais oublié qu'il y avait ça, parce qu'on était en vacances, etc. Mais il y a un DVD à la fin du...
Ouais, le DVD du film.
Qui montre un film, apparemment, qui raconte une autre des expéditions.
Ouais.
Oui, non, il y a des passages... Il y a une anecdote drôle.
Aïe! Il y a une anecdote très, très drôle. Je crois qu'elle est juste après ça. C'est comment est-ce que tu fais pour avoir un gars qui a... une
balle dans chaque main.
Une balle dans chaque main, sous la mâchoire, et une impact de sortie sur le front, un truc comme ça. Mais c'est un truc de malade.
Avec une seule balle.
Avec une seule balle.
Ah ouais.
Mais il faut le lire.
Il faut le lire, et tu auras l'explication. Voilà, on vous laisse le suspense, ça vous donnera envie. C'est assez impressionnant. En tout cas, voilà, c'est un chef-d'œuvre. Je pense qu'elle méritait d'avoir ce prix essentiel. Il faut le lire, c'est vraiment, vraiment superbe. On reste plein d'émotions et on arrive à la fin. On fait waouh, le mec, donc il rentre chez lui, etc. Mais tu te dis, mais comment tu peux avoir une vie normale après avoir vécu ce qu'il a vécu, quoi?
C'est surtout, je trouve, le travail, voilà, de grand reporter, quoi, est vraiment admirable, quoi. Je pense qu'il voit et il traque. Enfin, après, du coup, ils peuvent te raconter des choses que tu. Toi, tu as 100 000 lieues de ça, quoi.
Et donc il y a La guerre d'Alan et L'enfance d'Alan donc, qui viennent de sortir, qui sont des bouquins de Guibert encore, avec qui raconte l'histoire d'un ami à lui, qui s'appelle Alan, je ne sais plus comment, pendant la guerre, etc. Donc c'est un peu la même optique, et qui, paraît-il, est très 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 sympa aussi. En tout cas, l'Afghanistan, ça a l'air très joli. Même si je ne sais pas s'il y a une destination idéale pour les vacances.
Actuellement, peut-être pas. Je tiens juste à préciser que dans le tome 3, les photos sont quand même un petit peu plus grandes que dans les deux premiers tomes. Il y a des... Peut-être qu'eux-mêmes se sont rendus compte que la photo n'était pas assez mise en avant.
Il fallait un plus gros bouquin.
Voilà, il y a des cadrages qui sont plus grands, il y a une double page de photos,
de
etc.
Folie.
De la folie.
Mate manga.
Et nous recevons le très attendu, le très demandé, le grand, le magnifique, le mangafique Mathieu. Salut Mathieu.
Salut Pied. Eh ben dis donc.
Tout ouais, ça tu nous as manqué. Ah bah, c'est un moment qu'on t'a pas vu.
Oui. Ben un petit événement ou grand événement plutôt oblige. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'être disponible 100% pour le One A Club. Je m'en excuse.
Tu n'as pas à t'en excuser. Alors, tu as fait des sacrifices pour cette émission, pour ta rubrique. Tu t'es lancé dans un genre, comment dire, un genre.
Un genre, oui, tout à fait. Et tu verras que de la même façon que la dernière fois où tu m'avais dit que j'avais dû faire des sacrifices assez énormes, j'ai moi-même été très surpris de m'apercevoir que les sacrifices n'avaient pas été si énormes que ça.
Tu caches peut-être ton jeu, en fait. Tu ne le sais pas.
Non, je dirais surtout que, comme dans tout genre, il ne faut pas s'arrêter aux préjugés qu'on peut en avoir et qu'il y a des petites pépites à trouver.
Bon, allez, trêve de suspense, de quel genre vas-tu nous parler ?
Du yaoi.
Wow, et tu l'as bien prononcé ?
Je pense.
Okay,
je pense qu'on aura la question ou pas.
Ou pas, on verra.
Spécialiste en prononciation et en remontage d'erreurs nombreuses de notre
bon,
part.
Bon, alors, le yaoi. yaoi. Qu'est-ce que c'est ?
Alors déjà, si on travaille sur le yaoi... Ah, coupe. Assis-toi, Nathan. Oui, c'est Pika Pika. Désolé, tu risques d'avoir un peu de montage, ouais. Pierrick.
On va refaire un blanc.
On va refaire un blanc et puis je vais reprendre à ce qu'est le yaoi. Donc le yaoi, ça serait en fait un acronyme pour Yamanashi, Ochinashi, Iminashi. Qui grossièrement signifierait pas de climax, pas de résolution, pas d'histoire. En fait,
c'est super encourageant.
Ah oui, c'est clair. En fait, à l'origine, ce serait un terme inventé pour les doujinshi. En fait, les doujinshi, ce sont des mangas auto-édités et généralement dessinés par des amateurs.
Du fanzine, quoi.
Du fanzine, oui, tout à fait. Des fanzines qui comporteraient des scènes érotiques entre des personnages masculins issus de mangas populaires. Dans les années 70-80...
Vegeta et Son Goku ?
Oui, ce genre de choses. Naruto et même des fois des crossovers, des Naruto Sasuke, des Naruto Natsu de Fairy Tail, ce genre de choses.
Tu aimes les coupes à pic ?
Ouais. Donc du coup, dans les années 70-80, en fait, il s'est avéré que au public féminin japonais, il y a une popularité grandissante.
Attention, tu redéconnes. Dans les années 70-80, tu peux reprendre ça. Attends, petit blanc et tu reprends.
Dans les années 70-80, en fait, la popularité de ce genre de fanzine a augmenté grandement auprès du public féminin japonais. Et donc, on a vu apparaître des productions d'œuvres originales par des professionnels. Donc, il y a eu la naissance d'un genre à part entière qui aujourd'hui est appelé par les maisons d'édition le boys love. En fait, le yaoi, comme on l'appelle chez nous, ne désigne que les doujinshi au Japon. En fait, c'est un terme qui est encore une fois utilisé un peu abusivement ici pour désigner toute forme de romance entre deux hommes, même si c'est uniquement suggéré.
D'accord.
Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le terme utilisé par les maisons d'édition au Japon, pour toutes les œuvres où on trouve une intrigue de romance entre deux hommes et qui est destinée à un public féminin, c'est le boys love. Bon, dans la suite de l'explication, je dirais yaoi parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et je laisserai aussi de côté le shonen ai. Nous en parlerai certainement une prochaine fois.
Ok.
Donc, ces œuvres sont en général écrites par des femmes pour des femmes. Elles mettent souvent en scène des fantaisies féminines et les fantasmes projetés des femmes sur les univers homosexuels masculins. Donc, les relations...
En Europe, on fait l'inverse en général. C'est les hommes qui mettent en scène les fantasmes homosexuels féminins.
Oui, mais ça, le thème qui en traitera, c'est le hentai.
Surtout quand cul c'est... Vas-y, continue.
J'étais sûr. En fait, dans le yaoi, souvent les relations peintes sont autant au point de vue...
Hop, repose. Souvent dans le yaoi. Excuse-moi.
Ok, pas de problème. Souvent dans le yaoi, les relations dépeintes, autant du point de vue sentimental que physique, hein, ça obéit en règle générale largement aux codes et aux normes imposées aux couples hétérosexuels.
D'accord, par contre c'est pas de l'explicite, ça reste du sage.
Non, ça reste du sage. Ben justement, comme d'habitude, tu m'offres des transitions au micro-poil. En fait... De par sa définition d'œuvre à caractère sexuel, on pourrait croire que le yaoi, c'est du hentai pour filles. Mais en fait, non, c'est... déjà, le yaoi couvre un large panel de genres, comédie, SF, mecha, avec des intrigues qui sont très complexes, et l'acte sexuel est en général associé à un acte d'amour, avec de la romance en toile de fond. C'est vraiment, on a vraiment des scènes qui sont peu explicites. On a tendance à pas dessiner d'organes génitaux. Donc c'est vraiment basé sur les sentiments et sur l'amour, bon, entre deux hommes, mais l'amour véritable.
D'accord.
Donc le marché du boys love, il s'est énormément développé ces dernières années et il a un public de plus en plus large. Autant en Europe qu'au Japon. Et du coup, on s'aperçoit que de nombreux shoujo incluent des éléments de boys love dans leur trame. En fait, on trouvera des relations ambiguës entre différents personnages secondaires masculins sans pour autant en faire leur trame principale. On peut trouver ça, par exemple, typiquement dans du Angel Sanctuary, dans du X, Tsubasa Reservoir Chronicle. Donc, C'est quelque chose qui se démocratise et qui apparaît de plus en plus.
Ok. Bon, et c'est arrivé jusqu'en France, alors je croyais pas que ce genre pourrait avoir du succès. Apparemment, ça marche pas si mal.
Ça marche assez bien, oui, tout à fait. Et donc du coup, par exemple, le manga dont je vais parler là, Acid Town, c'est un manga qui marche pas mal.
Acid Town.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que c'est que donc ?
Alors, Acid Town, c'est un manga qui est édité chez Taifu Comics, qui a été dessiné par Kyo... Oh, punaise. Kyo Gao.
Ouais. Kyo, le groupe de musique.
Ah, ça s'écrit K-Y-U-G-O. Donc, d'accord. Voilà, sachant que le U se double et le O se dit O-U, je vous laisse trouver la prononciation exacte. Hein.
Oh là là, comme tu bottes en touche.
Un peu.
Ok, et donc ce monsieur, c'est une dame ou un monsieur ? Là, la question piège.
La question piège. Je n'ai pas poussé les recherches assez.
Cette personne humaine, donc, nous parle de quoi ?
Ce mangaka. Alors, de quoi nous parle Acid Town ? En fait, dans une ville où la loi n'existe pas, on suit la vie de Yuki et de son meilleur ami Tetsu. Donc, suite à l'échec du cambriolage de l'écho de la Seidukai, pour pouvoir payer les frais d'hôpital du frère de Yuki, celui-ci se voit proposer un deal par Kazutaka Yodo, Alors c'est le genre d'offre qu'on ne peut pas refuser parce qu'en fait Yodo lui propose de payer tous les frais de son jeune frère, tous les frais hospitaliers de son jeune frère. Toutefois, on verra que cette offre ne sera pas sans conséquence pour Yuki et Tetsu.
D'accord.
Donc ouais. Par rapport ah oui, excuse-moi.
Non, vas-y.
Par rapport au dessin, on a un dessin qui est à la fois épuré et construit. En fait, les expressions sont représentées avec beaucoup de finesse. On a une grande facilité pour reconnaître les personnages. Et une chose, c'est que l'aura des personnages est perceptible dans la manière dessinée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Les personnages ont un assez fort charisme et ça transpire dans le dessin.
D'accord.
Il y a un fort dynamisme dans le cadrage qui permet de distiller un peu de fraîcheur dans une histoire qui est assez lourde et pesante. Le seul point noir que j'aurais pu y voir, c'est que les décors sont un peu vides, mais ça colle très bien à l'ambiance de la ville qui est en perdition et des fois même le vide qui a le vide intérieur de certains personnages.
Bien. Donc là, ce que tu m'as raconté là, à l'heure actuelle, ça m'a l'air d'être une sorte de thriller, une sorte de polar, mais je vois pas trop le côté relation entre hommes. C'est quoi? C'est de l'arrière-plan? C'est secondaire? C'est...
Je parlerai du scénario après, mais c'est en fait les romances, c'est un fil rouge, c'est une trame de fond. Bon, il y a toute l'histoire qui se passe et il y a aussi l'évolution des relations entre les différents personnages. Et bon, on voit que très 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 peu de femmes dans le manga. Il y a beaucoup de relations entre hommes. Il y a une romance entre Tetsu et Yuki. Il y a beaucoup de choses.
Ok.
Bon, je vais quand même rapidement parler du scénario parce qu'en fait, c'est un point très très fort dans ce manga. Il est à la fois sombre et adulte. C'est mes deux mots pour le scénario. Il y a un gros travail qui a été réalisé sur le premier tome pour mettre en place une ambiance, pour poser les protagonistes, pour placer les premières intrigues. Et le premier tome, en fait, on pourrait limite le comparer à une introduction de 150 pages, mais j'avoue qu'on ne boude pas sans plaisir. C'est très bien construit, c'est très bien amené. Et dans la suite du manga, j'ai oublié d'en parler, il y a trois tomes qui sont sortis en France je ne sais pas combien au Japon. Dernière fois, je suis tombé sur trois, mais je crois que le quatrième est sorti il n'y a pas longtemps. En fait, dans la suite du manga, on en apprend plus sur Yuki, sur son passé assez torturé et douloureux, sur la rencontre entre Yuki et Tetsu, et sur l'évolution de leur relation. J'en parlais tout à l'heure. Donc, il y a une chose qui est intéressante et qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est que tout ne tourne pas autour d'eux. Et le monde change autour d'eux, les situations évoluent en fonction des différentes factions mafieuses qui cherchent à protéger le statu quo ou à le renverser en fonction de leurs intérêts. Et le gros point fort du scénario, c'est la construction de l'histoire. Parce que en fait, on alterne entre des moments très très durs psychologiquement et des moments de calme et de sérénité, voire de bonheur simple, qui permettent aux héros et aux lecteurs aussi de tenir dans l'environnement qui est relativement sordide. C'est le côté clairement humain des personnages qui est une des forces de ce manga, parce que les personnages ont des réactions tout à fait crédibles face aux situations. On assiste typiquement à la terreur d'un des personnages face à une personne qui a été la source d'un traumatisme de son enfance. Les doutes et les chocs ressentis par un des personnages principaux face à des révélations qui sont données de manière ultra crue, choquante, sans aucun phare et sans aucun tact, justement dans le but de blesser et de faire du mal. Et c'est tellement bien écrit qu'on oublie qu'on est en présence d'un boys love, en fait. Et que quand il y a des éléments qui nous le rapportent, et ben, c'est tellement naturel et c'est tellement bien écrit que ben, on l'accepte sans se poser de questions, parce que ben, c'est la logique même. Ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe pour dire, ben voilà, c'est un boys love, donc il faut que... Franchement, je le disais en introduction tout à l'heure, c'est le genre de manga où il faut pas s'arrêter au style et faut creuser, faut, parce que là c'est clairement une pépite et faut pas s'arrêter à un préjugé en disant c'est un love.
Ouais, c'est le genre de truc, faut persévérer et en fait.
Mais même pas. Il y a même pas à persévérer. Faut passer le côté ouais c'est un boys love, c'est un yaoi, je vais pas aimer parce que c'est une amourette entre mecs quoi. C'est au bout de deux chapitres, j'étais dedans, j'étais accroché et je me suis surpris à avoir le troisième tome en main et puis à lire le troisième tome et à me dire ah bah merde c'est le dernier quoi. Franchement c'est du plaisir à lire, c'est bien construit, c'est sombre à souhait, c'est très 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 adulte et c'est génial quoi.
Ok, bah c'est l'air très intéressant et très tentant pour le coup. Très bien, et eh bien merci pour cette chronique. Ça faisait plaisir de te réentendre.
Bah moi ça m'a fait plaisir de pouvoir la faire aussi.
On te revoit donc le mois prochain. Hein, c'est bon
tout à fait. Normalement ça devrait aller.
On va se débrouiller. Et puis on se dit donc au mois prochain. Allez, ciao.
Ciao, salut.
Hors-sujet. Pour notre hors-sujet, nous allons avoir un peu du son, nous allons avoir un peu quelque chose de rigolo, car nous allons parler de quelque chose de très particulier, nous allons parler d'un jeu, oui, nous allons parler d'un jeu, que nous allons pouvoir découvrir sur tablette et sur portable Android et iOS, nous allons parler de Rayman Jungle. Rayman Jungle est sorti il y a peu et a été super bien travaillé. Vous allez pouvoir voir tout de suite ce que ça donne, car nous allons demander à Matt de jouer en parallèle.
Non, à Thio.
Ouais, à Thio, c'est pareil, c'est le même.
Bah non, Matt, c'est celui qui fait les mangas.
C'est vrai.
Matt, c'est celui qui a les grands
voilà.
yeux.
Voilà. En gros, c'est un jeu qui se joue en un bouton. C'est-à-dire qu'on a un bouton qui va pouvoir faire un peu ce qu'on veut, un seul, on touche n'importe où sur l'écran, pour d'abord sauter dans les premiers niveaux, puis qui va nous permettre de planer, si on reste appuyé, puis dans les niveaux d'après on va pouvoir marcher sur les murs, et enfin dans les derniers niveaux on va pouvoir taper. Ça a l'air assez facile comme ça, sur les premiers niveaux, on y arrive facilement, mais le but ça va être pas seulement d'arriver à la fin du niveau, mais ça va être de collecter les 100 lums, qui sont des sortes de petits bonhommes qui sont au milieu, pour réussir à avoir une dent de la mort. Et quand on a réussi à avoir 5 dents de la mort, on ouvre le niveau super méga dur sur lequel il faut avoir un challenge online. Ce jeu est un petit bijou, il est super bien fait, il est super bien pensé pour un usage sur tablette, c'est-à-dire que c'est des parties très très courtes. Ça a l'air simple comme ça alors que c'est un seul bouton, mais il y a vraiment du challenge. Les niveaux sont de plus en plus durs, les level design sont très très bien pensés. Ça coûte 2,50€, c'est des beaux graphismes, il y a des super musiques.
C'est super beau!
Ouais, il y a. Je crois qu'il y a un truc genre 44 niveaux en tout. Voilà, moi je dis. Non, 40 niveaux, voilà. Ça vaut vraiment le coup, je vous le recommande chaudement. C'est un vrai bonheur, et puis 2,50€, c'est vraiment pas grand chose pour un jeu. Voilà, pendant ce que Isaac et Thio sont totalement pris dans le jeu. Nous allons pouvoir achever ce podcast. On se retrouve...
Achevez-le !
Dans 15 jours pour une nouvelle émission pleine de surprises et de bandes dessinées. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao !
Bye bye !
Ciao ! Ah, il en manque deux.